Donc un raton qui avance bien, voir comment ça réagit, hein, sa thèse sur l'endettement notamment, c'est toujours notamment des petits fonctionnaires ou ça a bougé, je me demandais.
Ah, enfin, tu peux expliquer ta thèse. C'est sur les âges de crédit à la consommation, voilà, que je définis de manière très large comme au sens juridique, par défaut par rapport au crédit immobilier, crédit commercial. Et effectivement, j'ai pris en particulier comme population des fonctionnaires de catégorie C et B ou des salariés du public équivalent parce que, bah, notamment à partir de mon terrain de début de thèse dont je vais parler ici en fait, qui m'a amené à ça et parce qu'il m'a semblé que c'était intéressant comme population pour réfléchir à l'effet de la stabilité sur le recours au crédit et sur les économies domestiques. Donc en France, les années 80 et 2000. Voilà, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la question de l'endettement en couple, comment est l'accès au crédit, à partir d'observations que j'ai faites dans une banque très particulière, que j'appelle le centre de crédit, parce que, je suis anonyme, parce que j'ai pas encore réfléchi à dans quelle mesure je peux donner son vrai nom. Effectivement, on revient à la question des monographies pour moi, ou histoire, parce que c'est une banque très particulière, qui a son siège en région parisienne, qui a son siège et succursale en région parisienne, à laquelle j'étais venue parce qu'en DEA, j'ai fait un DEA sur l'accès à la procédure de surendettement, et dans laquelle, dans des entretiens avec les représentants d'associations de consommateurs ou dans des entretiens avec des surendettés, j'ai entendu à plusieurs reprises parler de cette banque parce qu'elle est en grande partie spécialisée dans le rachat de dettes. Donc elle joue en partie un rôle de dernier recours avant un peu la procédure de surendettement. Donc c'est une banque qui a une activité de banque de dépôt de manière très marginale. C'est pour elle en fait un prétexte pour pouvoir faire du prêt personnel. Donc elle fait du prêt personnel à des particuliers au moment où j'enquête uniquement prêt à la consommation classique avec échéancier et rachat de dettes. Donc j'ai fait des observations à l'octroi de crédit, comment se passe l'octroi de crédit au guichet, pendant à peu près 3 mois, et des observations pendant à peu près 3 mois au service contentieux. Et c'est là que j'ai lu, notamment, j'ai pris des notes sur 108 dossiers, ce que j'ai réussi à faire, sachant que... 108. Uniquement 108 sur à peu près 4200 au total. Je ne voudrais pas faire 100 000 de toute façon.
4200, c'est ce qui était en cours.
Donc c'est des dossiers en stock, ce ne sont pas des archives, c'est des dossiers en cours de traitement. Donc voilà, il y en avait à peu près 4200 au total. Et donc j'en ai lu 108 parce que justement c'était pas très clair, enfin j'avais le soutien de certains et pas d'autres, donc notamment j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas le droit de copier, et donc j'ai tout recopié à la main. Voilà, ce sont des dossiers très, donc évidemment rien de représentatif, mais par contre des dossiers très riches, qui, ça va pas être mon objet ici, mais on pourra en reparler si vous voulez pendant la discussion, parce que voilà, par rapport à toute la discussion sur le recours au droit, ce qui me paraissait intéressant sur ces dossiers, c'était que c'était le point de vue d'une banque sur ses clients en contentieux, et que donc on pouvait voir des trajectoires depuis l'impayé jusqu'éventuellement à la saisie ou à la procédure de surendettement, etc. Voilà, et donc ici, je n'utilise pas ça de manière systématique, mais un peu diverses informations sur l'octroi de crédit, sur les dossiers, et puis d'autres choses, je vais parler rapidement, pour essayer de traiter cette question de l'endettement en couple comme moyen technique d'accès au crédit, parce que ça m'a frappé dans cette banque, le centre de crédit. Voilà, on sait que l'endettement immobilier est un facteur d'augmentation du taux d'activité des femmes, que l'endettement immobilier, l'achat immobilier et l'endettement immobilier correspondent souvent à des causes communes des couples, donc plusieurs auteurs ont travaillé sur ça. Mais ce que j'ai observé au centre de crédit, c'est de l'endettement en couple pour du prêt à la consommation, notamment du rachat de dettes, et assez souvent sous la forme d'une incitation bancaire à s'endetter à deux, parce que c'est le moyen pour que ça passe, selon l'expression des banquiers. C'est à ça que je propose de réfléchir ici. une part importante des clients de cette banque sont donc attirés par la possibilité de souscrire un prêt personnel ou un rachat de dette jusqu'à un taux d'endettement supérieur à celui accepté par les banques classiques, qu'on a souvent en tête le taux de 33% des banques commerciales, qui n'est pas un taux légal, mais un taux pratique, je ne sais pas comment il s'est imposé. Et dans cette banque, donc on va jusqu'à 45% au moment où j'enquête, d'après les dossiers de contentieux, ça m'a été au-delà à certains moments. Donc employés, ouvriers sont surreprésentés, même si j'ai pas des statistiques bonnes et très fiables, mais apparemment surreprésentés, et notamment ceux de la fonction publique pour des raisons de lien historique de la banque avec des institutions publiques. Donc l'atout que représente la signature d'un conjoint constitue un obstacle pour les célibataires et pour ceux qui vivent en couple, au contraire, une injonction à un engagement commun pas toujours souhaité dans les cas que j'ai pu observer et dont les implications peuvent s'avérer problématiques en cas de divorce ou de séparation. Et il me semble qu'il y a un fond historique qui peut être intéressant, sur l'histoire récente à ça. Il me semble que ces problèmes soulevés par l'endettement à deux s'inscrivent dans deux évolutions depuis les avec d'une part l'effet de la libéralisation bancaire des années 80 qui renouvelle l'offre de crédit formel, et d'autre part l'évolution de la vie en couple et le taux de divorce. Donc se pose la question de l'articulation entre l'association ou le collectif que peut constituer le couple au moment de la souscription du crédit et l'engagement financier dans la durée. Alors, donc dans une première partie, je propose de voir un peu de manière précise ce qui se passe, ce que j'ai pu observer au centre de crédit. Comment vient-on pour ce type de crédit à s'endetter à deux? Si pour certains clients la demande est formulée dès le départ à deux, j'ai pu observer à plusieurs reprises une injonction de la part du banquier, notamment au cours de l'étude du dossier. Donc très rapidement, comment se passe l'octroi de prêt au centre de crédit? Ça se passe d'une manière qui est plus proche habituellement de l'octroi de crédit immobilier, parce que puisqu'il s'agit de montants assez élevés, parfois élevés pour le cas des rachats de dettes, et sur des clients dont le profil est jugé risqué, puisqu'ils ne sont plus acceptés par d'autres banques, le mode de sélection passe par une lecture très attentive de tous les documents. Donc les entretiens peuvent durer une heure, et assez souvent les clients doivent revenir fournir d'autres pièces. Donc ça peut se passer aussi par courrier, mais assez souvent c'est au cours du face-à-face, tout en discutant, que le banquier pointe tous les relevés de notes les relevés de compte. Le dernier mois pour les crédits classiques et les trois derniers mois pour un rachat de la dette. Donc tous les comptes bancaires possédés par la personne et éventuellement son conjoint. Évidemment, il y a plusieurs critères, il faut que les personnes ne soient pas fichées, etc. Et puis rapidement, au fil de la lecture du dossier, le banquier calcule le taux d'endettement en rapportant les mensualités de prêt et le loyer éventuel au revenu. Je passe sur les détails, il module ça par un autre calcul qui est du quotient familial mensuel après impôt qui permet de relativiser le taux d'endettement qui est un pourcentage par un montant absolu de nombre d'euros restant à la fin du mois après impôt. Et puis divers critères sur la propreté, quelque sorte du relevé de compte, il ne faut pas qu'il y ait trop de rejets, même si on a souvent pour ce type, trop de rejets de prélèvement, même si on a souvent pour ce type de clients. Donc le taux d'endettement constitue un moment essentiel du calcul menant à la décision d'octroi ou non du prêt. Et c'est à ce moment-là que peut intervenir la prise en compte des revenus du conjoint s'il existe ou pas. Donc lorsque le dossier ne passe pas, lorsque le taux d'endettement est trop élevé ou d'autres critères gênent, le conseiller propose parfois la signature du conjoint cohabitant en fin d'entretien comme ultime solution. Donc, par exemple, une conseillère au sein d'une cliente divorcée avec un enfant à charge qui gagne 1 700 € par mois. Donc à la lecture des relevés de compte, la conseillère se rend compte qu'elle a un peu des difficultés, comme souvent, la cliente a 35 000 € de dette. Donc la conseillère fait le calcul, voit que ça ne passe pas, et finit par lui demander, vous êtes à 58% d'endettement après rachat, est-ce que votre conjoint ne pourrait pas être co-emprunteur? Donc la cliente a évoqué un conjoint, cohabitant au cours de l'entretien, mais qu'elle ne connaît même pas ses revenus. Donc c'est un conjoint récent, il est assez peu probable qu'il soit qu'ils mettent, enfin tout simplement qu'ils mettent leur ressources en commun et qu'ils soient intéressés par la signature du prêt.
Oui.
Non, en fait, c'est chouette. Bon, quand même ça, mais ils vivaient ensemble, mais elle ne connaissait pas ses revenus. Voilà, mais c'est exactement ça en fait. C'est qu'effectivement, par certains moments, ils se trouvent à, que je veux dire, à réaliser le couple, à faire le couple par la signature du prêt. Donc, bon, on comprend qu'il y a un effet de solvabilité, et évident, ce sont des clients qui ont des petits revenus ou un taux d'endettement élevé, et la prise en compte des revenus du conjoint, dans la mesure où il est cohabitant, fait baisser le rapport entre les charges et les revenus. Donc, ce que considère comme un couple le centre de crédit en pratique, sans que ce soit écrit nulle part, mais ce que font tous les conseillers, qu'effectivement, un couple sont deux personnes qui déclarent vivre ensemble et qui, effectivement, ont des charges communes, notamment charges de loyer. Donc, sans que cette affirmation soit contredite par les documents produits, et notamment les relevés de compte. À partir de là, ce qui est étonnant, c'est que... Pour autant, les banquiers du centre de crédit accordent une importance à l'idée qu'ils se font du couple et ont confiance au couple plus que ça, puisque par contre ils n'acceptent pas d'autres cohabitants. C'est extrêmement rare. Dans la mesure où c'est la cohabitation qui améliore la solvabilité, ils pourraient accepter un fils, un père, etc. Et ils sont très réticents à ça. D'ailleurs, j'en ai trouvé aucun, par exemple, dans les dossiers de contentieux, j'ai jamais vu que ce soit accepté à l'octroi. Alors pourquoi est-ce que j'ai donné un exemple d'observation où une cliente elle est mariée, elle a deux enfants adultes et son mari est au chômage, il travaille au noir, donc il ne peut pas signer, il ne peut pas améliorer la solvabilité formelle en tout cas du couple. Et elle vient avec l'idée de faire signer comme co-emprunteur sa fille qui travaille. Et la conseillère refuse, après avoir consulté sa supérieure quand même, et en disant « je ne peux pas prendre votre fille parce que vous, elle parle à la fille, vous êtes jeune et vous n'allez pas rester dans le foyer.
»
Ok, elle fait vraiment cette question. Donc, en quelque sorte, le banquier essaie d'évaluer l'avenir de la situation, la probabilité que les charges des emprunteurs n'augmentent pas est-elle élevée, et il semble qu'un co-emprunteur conjoint a, d'après le pari du centre de crédit, des chances supérieures de continuer à partager les préoccupations et les charges de l'emprunteur principal, supérieures à celles d'un enfant ou d'un parent. Il semble qu'effectivement le centre de crédit croit en pratique, sans l'avoir formalisé, en la solidité relative du couple par rapport à d'autres formes familiales et le réalise par la signature des deux conjoints. De la valeur du conjoint comme clé d'accès à certains crédits découle donc une incitation assez forte à solliciter sa signature. Or, cet engagement est fort et distinct de l'engagement conjugal puisqu'il se base sur un contrat vis-à-vis de la banque et qu'il est donc indépendant de la durée de la vie en couple. Le respect du contrat co-signé dure bien sûr jusqu'à extinction de la dette, quel que soit l'état des relations contractuelles entre les membres du couple. Et c'est pourquoi, assez logiquement, quand je fais des observations au contentieux, au service contentieux, ce qui ressort régulièrement sont les sentiments d'injustice créés par les situations de séparation ou de divorce. Donc effectivement, au service contentieux, de manière assez récurrente, des débiteurs téléphonent parce qu'ils viennent de recevoir un rappel ou une injonction payée, etc. Et qu'ils se redécouvrent redevables d'une dette qu'ils croyaient avoir été prise en charge par un ex-conjoint. Alors j'avais essayé de travailler un peu sur ça, faire des hypothèses, mais je l'ai laissé de côté pour ici. Moi, pour ce que j'ai observé, c'était des débitrices à chaque fois qui appelaient à ce sujet. Et à chaque fois, le travail du rédacteur au service contentieux est d'expliquer le droit, qui s'impose là de manière assez inévitable en répétant « les jugements de divorce ne sont pas opposables ». Même si lui dit je prends ça en charge, s'il ne paye pas, on pourra quand même se retourner contre vous, ça ne vous décharge pas. Donc d'une part, effectivement, le contrat de divorce, lorsqu'il y a eu divorce, n'est pas opposable, c'est un arrangement entre les époux et pas vis-à-vis de la banque. Et d'autre part, ce que redécouvrent souvent les gens à ce moment-là, c'est ce qui était écrit dans le contrat, qui ne faisait pas forcément sens au moment de l'octroi, c'est l'indivisibilité de la dette. D'ailleurs, là, j'ai quand même vu les banquiers jouer un peu sur ce malentendu, parce que le terme de co-emprunteur est un peu trompeur. Le co-emprunteur est emprunteur exactement au même titre que l'emprunteur principal.